Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
S'abandonner, définit le dictionnaire Robert, c'est se laisser aller. Mais s'abandonner en Dieu, relève-t-il de ce même lâcher prise ? Qu'avons-nous à gagner d'un tel abandon ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans Vivante Église. Éloge spirituel de l'abandon, c'est le titre de l'ouvrage de l'invité de Radio Présence aujourd'hui. Bonjour Cécilia Duterre.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes romancière et essayiste, vous êtes aussi chroniqueuse pour le journal, le magazine La Vie. Commençons peut-être par une question personnelle. Qu'est-ce qui vous a convaincu de la nécessité de vous abandonner en Dieu ?
En fait, j'avais beaucoup travaillé sur la question de l'abandon, puisque j'avais travaillé notamment sur la figure spirituelle de Eti Ilsoum, à laquelle j'avais consacré 3 ouvrages, et puis dernièrement sur les figures de Marie, la Vierge Marie et Marie-Madeleine. Alors, évidemment, Marie, figure emblématique de l'abandon. Et tout cela m'a... Alors, il faut peut-être rappeler que les éloges spirituels de, c'est une collection, et c'est vrai qu'on m'avait... laisser le choix dans le voilà dans il y avait une liste en fait de thématiques, et quand j'ai vu l'abandon, j'avais vraiment eu envie d'approfondir cette belle notion, parce que eh bien dans ce monde du tout contrôle, dans un monde épuisé hein, par la performance, saturé d'injonctions à être plus, à faire plus, à optimiser sa vie, je trouve que l'invitation à s'abandonner sonne comme une permission rare de ne pas tout maîtriser, justement, peut-être d'être traversé par la vie plutôt que de croire abusivement la tenir sous sa coupe. Et tout simplement peut-être aussi la permission d'être humain, fragile et habité par quelque chose de beaucoup plus grand que nous, Dieu. Et voilà, et donc s'abandonner à cette réalité supérieure qui est la réalité spirituelle, la réalité transcendantale, évidemment, c'est pour moi, c'est un cheminement en fait. C'est une posture, bien sûr, mais c'est un cheminement. Et j'ai voulu, dans cet éloge spirituel de l'abandon, prendre un peu par la main le lecteur et l'emmener sur les pas de cet abandon, mais à travers, bien sûr, la Bible d'abord, et puis aussi les grands penseurs, les grands mystiques chrétiens qui tous ont connu cet état magnifique de dessaisissement.
Vous faites allusion, j'imagine, à Maître Eckhart. Vous parlez effectivement d'Eti Ilsoum. Il y a aussi Edith Stein, et on va voir un petit peu ces figures au cours de cette émission. Vous évoquez dans votre livre votre vie d'avant, si on peut l'appeler comme ça, avec la volonté de tout maîtriser, de tout planifier. Et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cette volonté. En quoi était-ce une impasse ?
C'est une impasse parce que d'abord la réalité montre bien les épreuves, les écueils, les obstacles, montre bien que on ne peut pas tout maîtriser, et que et surtout c'est un épuisement complètement nerveux, parce que finalement on est dans l'ultra perfectionnisme. Enfin moi j'étais quand j'étais jeune, j'étais très perfectionniste, et j'avais l'impression que je pouvais comme ça dessiner mon destin à ma seule force de mes petites mains. Et en fait bien sûr que non, bien sûr que c'est une illusion, et c'est une illusion partagée par nombre de nos contemporains. Donc c'est quand même dans cette illusion qu'on est élevé, qu'on peut tout faire, dans ce jeu très volontariste en fait, dans cet ego un peu hypertrophié de l'époque.
Un état d'anxiété finalement.
Déjà, ça nous met dans un état d'anxiété, bien sûr. Et puis, par ailleurs, c'est surtout complètement illusoire. On vit dans ce... C'est aussi un manque d'humilité, hein, un manque d'humilité important de considérer qu'on est à la tête, en fait, de sa vie. Alors, on est... Pour partie, bien sûr, la volonté est importante pour la tracer, mais cette volonté, et c'est bien l'objet de l'abandon spirituel, cette volonté, elle peut aussi mettre être mis au service de plus grand que soi-même, c'est-à-dire effectivement se faire instrument, en fait, outil dans la main de Dieu. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire que la volonté du je tout-puissant s'efface pour laisser passer une volonté supérieure. C'est vraiment le Notre Père, hein, que ta volonté soit faite. Et là, avec nos dons et nos charismes propres, qui sont singuliers, hein, pour chacun, eh bien, comment se mettre en état de réceptivité, c'est ça l'abandon, se mettre en état de réceptivité à la parole, être dans un cœur à cœur avec Dieu pour justement devenir outil aussi et transformer le monde, parce que moi je crois vraiment à ça, par nos actions, par nos paroles, par notre faire, mais on fait plus tout seul, on fait avec Dieu. Et ça change tout. Alors ça, on fait avec Dieu quand tout va bien, et puis parfois, la vie aussi nous apprend, et c'est très bien, ça nous fait aussi redescendre de notre piédestal, parce qu'on rencontre des obstacles, des épreuves, des souffrances, que peut-être on a fait tout ce qu'on pouvait, mais qu'on ne peut pas tout, justement. Et là, cet état de réceptivité, ce cœur à cœur avec Dieu, nous apprend aussi à vivre notre vulnérabilité pleinement, mais en s'appuyant sur la présence aimante, sur ce socle de solidité incroyable que nous avons quand nous avons la foi. Et donc, nous, c'est une forme de résistance, mais résistance en Dieu.
Et justement, vous avez vécu une souffrance intense suite à un accident domestique, et cette souffrance a modifié votre pratique de l'abandon, votre
Oui,
compréhension
en
de
fait,
l'abandon.
j'avais écrit le livre, donc je suis passée très rapidement, le livre était terminé, et je suis passée de la théorie, si j'ose dire, de la théorie à la pratique, parce qu'effectivement, j'ai eu un accident domestique grave. Je me suis cassé le poignet, mais quand on dit ça, évidemment, on a l'impression que c'est pas grand-chose. En fait, c'était vraiment,
Très handicapant, en tout cas.
voilà, une multiple fracture avec arrachement des ligaments, bon, bref, et surtout des séquelles neurologiques, neuropathiques, avec des douleurs neuropathiques très, 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 très intenses et très difficiles à soulager. Donc, j'étais dans une souffrance extrême et je n'arrivais pas justement à m'abandonner dans un premier temps. J'étais tellement repliée sur la douleur physique que ben, j'arrivais pas à placer plus haut cette douleur. Et puis, les mots d'une amie très chère, m'ont dit d'abord, elle m'a dit d'abord, quand le corps est souffrance, à ce degré-là, la souffrance est aussi une prière. Et ça m'a un peu
Ça vous a libéré?
débloqué quelque part, ça a renoué le dialogue. Et surtout, elle m'a dit, si tu n'arrives pas à prier, parce que c'était le cas, tu peux toujours dire à Jésus que tu l'aimes, ce que j'ai fait. Et ça a renoué le dialogue avec Jésus, avec Dieu. Et de cette grande solitude dans laquelle on est quand on souffre physiquement ou même moralement, moi c'était physique, mais ça peut être moral, j'ai ressenti justement de nouveau cette ouverture à Dieu, cette ouverture du cœur. Et alors la souffrance physique était la même, mais la façon de la vivre était différente justement parce que j'ai pu, par la prière, m'appuyer sur cette confiance aimante et reprendre des forces pour justement bah, entamer cette rééducation qui a été très longue, mais qui j'avais confiance et l'espérance que j'allais aller mieux, alors que la médecine me disait que j'allais avoir des séquelles et peut-être ne pas récupérer tout mon poignet. Et je l'ai récupéré, donc
Ah,
voyez.
donc vous avez bien fait de faire confiance et effectivement de vous abandonner en Dieu. Vous avez défini, Cécilia Duterre, l'abandon comme cette formule de faire avec Dieu, ce qui ne veut pas dire ne rien faire. Quelle est la différence avec le développement personnel qui vous a aussi un petit peu tenté à un certain moment de votre vie?
En fait, c'est pas tellement que ça m'a tenté, c'est surtout qu'on en parle
Bien
énormément, en
sûr.
fait, du développement personnel et que c'est un petit peu, si j'ose dire, la tarte à la crème. Les manuels de développement personnel nous enseignent, en tout cas, l'idée, c'est d'être toujours justement plus performant, plus adapté quelque part à la vie dans ce lâcher prise du développement personnel. L'idée, c'est de nous apprendre à accepter, à lâcher prise sur les événements quand on peut plus rien faire et selon des techniques, un coaching, etc. Mais quelque part pour être plus adapté, plus performant, plus justement pour être toujours dans cet ego un peu hypertrophié. Et alors que la voie de l'abandon, c'est rigoureusement l'inverse en fait. C'est vraiment la voie de l'abaissement, mais c'est la voie chrétienne, de l'abaissement. En fait, on gagne l'élévation par l'abaissement, c'est-à-dire par cette humilité, par ce jeu qui s'efface un peu pour laisser passer justement la présence. Donc c'est tout l'inverse finalement de ce lâcher prise. Mais le lâcher prise, le fait d'accepter les événements et d'accepter de ne pas agir sur les événements quand on ne peut plus, oui, c'est quand même une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante pour entrer dans ce cheminement. C'est pour ça que je dis cheminement parce que
Oui.
c'est compliqué. L'abandon qui nécessite de s'ouvrir, en fait, c'est vraiment une ouverture du cœur à la dimension transcendante de la vie. Mais encore faut-il y être, avoir
Avoir le
la
désir déjà.
accepter, voilà, avoir le la, accepter que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Et voilà, c'est pour ça que j'interroge aussi la question de la liberté.
Voilà, c'est ce
Est-ce
que
que
j'allais vous demander, parce que vous écrivez, la question qui est au cœur de l'abandon, c'est celle de la liberté.
Ben oui, c'est de là qu'on part, parce que est-ce que l'homme est libre parce qu'il trace, parce qu'il pense pouvoir tracer, parce qu'il est dans cette illusion de tracer sa vie de bout en bout, intégralement par ses propres forces, ou est-ce que il se décide et il accepte de, il acquiesce à une volonté, je dirais, qui est au-delà, à une vérité qui est au-delà de lui-même. Et peut-être c'est là, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr que la vraie liberté est une liberté intérieure. C'est vraiment la liberté spirituelle, parce que dans ce changement de regard, c'est une conversion, c'est une transformation qui nous amène, je pense, à une nouvelle naissance en Dieu.
Et vous écrivez que finalement cet abandon, c'est être libéré par un plus grand que soi, plutôt que d'avoir sa propre référence et un autoréférencement, c'est vraiment laisser Dieu le seul maître à bord.
Alors, le seul maître à bord, je ne dirais pas, parce que
Avec
justement, là,
la participation.
avec l'être humain, c'est-à-dire que l'abandon nous offre de collaborer, en
Voilà,
fait.
la collaboration, c'est
Je
ça.
parle vraiment d'une coopération avec le Seigneur, un partenariat pour transformer. Enfin, le monde est en perpétuelle transformation, et je pense que Dieu a besoin aussi de l'être humain pour le transformer. D'ailleurs, c'est bien pour ça la notion de liberté, elle est aussi très centrale dans le christianisme. C'est bien pour ça que c'est très beau le christianisme, et que je trouve cette foi magnifique, c'est que vraiment la liberté est au cœur du dispositif. Mais alors, encore faut-il accepter, on peut aussi la refuser, on peut aussi refuser cette collaboration. Encore faut-il que l'être humain s'ouvre à cette liberté d'accepter de collaborer, ce partenariat avec Dieu, quand l'action est possible. Encore une fois, quand elle n'est pas, il peut s'appuyer sur cette présence, sur ce soutien, sur ce socle de solidité en Dieu pour vivre sa vulnérabilité aussi, et être en état de réceptivité pour peut-être agir plus tard. Voilà. Mais la réceptivité aussi, c'est l'écoute de la parole de qu'est-ce que Dieu attend de moi dans la situation que je rencontre, et selon mon tempérament, mes dons propres. Moi, c'est la plume, d'autres, ce sera l'aide médicale, l'autre, ça peut être la maternité, ça peut être des milliers de choses, hein. Chacun a son aune, petite et grande chose. Nous travaillons à une transformation du monde, à faire advenir le projet céleste.
Et Dieu ne veut pas faire sans nous. Passer d'un tout contrôle à un abandon entre les mains de Dieu, ça ne se fait pas sans combat. Vous avez parlé d'un chemin, Cécilia Duterre. Par quelles étapes avez-vous dû passer et conseillez-vous de passer pour parvenir à cet abandon en Dieu?
Il y a toujours une tension en fait entre acceptation et résistance déjà. Effectivement, accepter le réel. Parfois, on a l'impression, alors comme moi-même, je l'ai vécu. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous parle plus. Le dialogue est peut-être un peu rompu parce que on est replié sur soi pour mille raisons. Alors, parfois aussi, on a l'impression qu'on crie un peu dans le désert. Et passer de ce sentiment d'être abandonné de Dieu à S'abandonner en Dieu, c'est vraiment un basculement, mais c'est un basculement que le Christ lui-même a connu sur la croix. Souvenons-nous,
Oui, mon Dieu,
dans les
pourquoi
moments
m'as-tu abandonné?
ultimes, il dit au Seigneur, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Reprenons ces paroles du psaume 22 de David. Et puis, dans l'instant d'après, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, on sent bien là que il y a un basculement entre cette idée d'être seul, abandonné, démuni, et de ne plus entendre, de vivre le silence de Dieu. Mais dans l'instant d'après, il s'abandonne quand même entre les mains du Père. Et donc, c'est à nous aussi de faire comme le Christ, notre guide, dans ces moments où, ben oui, le silence de Dieu, on le vit, de quand même, nous aussi opérer ce basculement et s'abandonner en confiance entre des mains plus grandes que nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous aide, nous aide et nous redonne cette confiance qu'on a perdue.
Et ce silence de Dieu, vous dites qu'on en fait tous plus ou moins l'expérience, c'est aussi l'expérience qu'a faite Mère Teresa ou même Thérèse d'Avila, cette nuit de la foi, où finalement elles avaient l'impression que Dieu les avait abandonnées.
Alors c'est même pire que ça, c'est-à-dire que dans la nuit de la foi, Dieu n'existe plus. C'est vraiment les ténèbres absolues, c'est le néant. Et là, c'est l'étape encore, je dirais, vraiment ultime. Et tous les grands, enfin beaucoup, beaucoup de grands saints dont je parle dans le livre ont connu, c'est assez étonnant, mais ont connu ce passage qui est la nuit de la foi. Alors vous parlez de Mère Teresa, elle a vraiment, c'est une traversée d'autant plus douloureuse qu'elle a été longue.
Oui.
On l'a su après, hein, quand on a découvert ses écrits, notamment dans le livre Viens, sois ma lumière, elle décrit cette douloureuse traversée qui a duré des années. Et son acte héroïque, je dirais, de résistance a été même dans ce néant, même si elle ne sentait vraiment plus Dieu à ses côtés et qu'elle mettait en doute l'existence même de Dieu, elle est restée aux côtés des pauvres à Calcutta, elle a continué son œuvre caritative merveilleuse, et même elle dit, bon, parce qu'à un moment donné, la traversée quand même s'est arrêtée, elle a retrouvé le dialogue avec le Seigneur, et elle dit que cette expérience très douloureuse l'a rendue plus proche des pauvres qu'elle avait sous sa garde, si j'ose dire. Mais cette traversée, cette nuit de la foi aussi, Saint Jean de la Croix là,
L'a
en parle
vécu.
très bien dans ce poème, La nuit obscure, Edith Stein aussi, beaucoup de grands. Et alors finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent ces grands mystiques? C'est que bah, la nuit de la foi, ça fait partie, le doute fait partie de la foi, ce sont des étapes. Et même Saint Jean de la Croix voit cette traversée douloureuse comme une purification de l'âme pour qu'elle se désapproprie d'elle-même et s'élève encore vers Dieu. Alors vous voyez, finalement, c'est pas si négatif.
Et puis, purification de l'âme, on devine bien à travers votre propos sur l'abandon spirituel la place de la confiance. Et c'est ce que ces grands saints ont fait. Comment cette confiance se construit pour parvenir à l'abandon?
Ah ben ça c'est vraiment ils ont gardé confiance malgré l'expérience de la foi. Alors peut-être qu'on peut parler de l'expérience encore plus est-il sous parce que elle garde Dieu dans la Shoah. Elle ne traverse pas la nuit de la foi. Elle continue à garder Dieu, mais elle pressent qu'éventuellement il pourrait partir, sa présence pourrait partir, parce qu'évidemment, face aux inquiétudes, face à la terreur, à la tragédie qu'elle vit, elle sait que ce Dieu, quand même, est fragile. Et préventivement, avant même de ressentir éventuellement la nuit de la foi, qu'elle n'a pas encore une fois ressentie, elle continue à appeler Dieu par la prière, elle garde le cocon en elle. Alors, ça rejoint votre question de la confiance, elle garde ce cocon, en fait, cet abri en elle de Dieu, et elle sait que au cas où il s'éclipserait, même ne serait-ce que quelques instants, c'est à elle de le sauver de ses propres ténèbres. Et là, ça, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que c'est à l'homme de garder Dieu et de. Elle a une image très très belle. Elle dit que Dieu est au fond d'un puits, un puits intérieur, et que c'est à elle d'enlever les gravats et les pierres qui
qui le
éventuellement
recouvre.
peuvent obstruer le puits. Alors peut-être ça répond à votre question sur la confiance. C'est peut-être ça, garder la confiance, c'est enlever les gravats quand gravats il y a.
Je vous propose, Cécilia Luther, de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons un des maîtres de l'abandon, Charles de Foucault, il a, dans sa très belle prière qu'il a composée, et elle est mise en musique par, et interprétée par Théo Charisma.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec Cécilia Duther à propos de son livre L'éloge spirituel de l'abandon aux éditions Arthège. Juste avant cette pause musicale, Cécilia Duther, vous avez pris l'exemple de d'Eti Ilsoum. Cette jeune fille d'origine juive a été déportée. Elle est morte à Auschwitz à l'âge de 28 ans. Vous parlez aussi dans votre ouvrage d'Edith Stein, donc deux jeunes femmes qui ont vraiment vécu la souffrance au cœur des camps de concentration. Elles ont vraiment fait ce chemin de l'abandon au cœur de la souffrance. Est-ce que la souffrance est-elle nécessaire, est-elle une aide pour arriver à cet abandon en Dieu?
Je ne sais pas si elle est nécessaire, mais de toute façon, on la rencontre tous un jour ou l'autre. Et c'est vrai que je pense que le Seigneur s'infiltre aussi en nous à travers nos failles, à travers nos fragilités, à travers nos épreuves et donc à travers la souffrance, bien sûr. La souffrance nous rend plus humbles. Elle nous fait descendre justement de ce piédestal dont je parlais tout à l'heure, qu'on s'est érigé de façon totalement illusoire. Et puis, elle nous fait aussi changer notre grille de lecture. De toute façon, quand on ressort d'une épreuve, on n'est plus les mêmes. Et c'est vrai que dans la souffrance, on peut, c'est une voie d'accès, effectivement, pour accueillir peut-être davantage le Seigneur. Parce que quand tout va bien, bon, est-ce qu'on y pense tout le temps? Oui, dans le meilleur des cas, on devrait, absolument. Parce que la prière, c'est pas qu'une prière de supplication, hein, c'est une prière de louange, c'est une prière de gratitude, c'est un dialogue, en fait, la prière. Pas, évidemment, pas que dans les moments où ça ne va pas. Mais en tout cas, je pense que quand on a la foi, on peut effectivement avoir cette possibilité merveilleuse de s'abandonner en Dieu quand on ne peut plus rien faire et de se reposer en Dieu, de toucher aussi, alors ça c'est un des fruits aussi de l'abandon, à la joie, et Tilsum parle de la joie dans les camps, c'est incroyable, mais elle est dans les camps, elle sait qu'elle va mourir, autour d'elle c'est quand même une désolation, une terreur, une tragédie, et pourtant elle se place finalement dans un instant présent éternel qui est l'éternité de Dieu, et elle touche quelque chose de la joie. Elle en parle elle-même, donc je me permets d'en parler, mais cette joie qu'on appelle la joie parfaite, la joie profonde, la joie pure, qui est une joie qui fait fi des épreuves et qui est en fait une acceptation du réel dans toutes ses dimensions, avec ses ombres et ses lumières. Et ça, elle l'a vraiment touché du doigt. Et je pense qu'Edith Stein aussi, puisqu'elle en parle aussi finalement dans ses poèmes notamment. Mais vous avez raison. Et en plus, elles se sont certainement rencontrées, elles se sont croisées certainement au camp de Westerbork. Je ne sais pas si elles savaient l'une l'autre qui elles étaient, mais elles sont passées par vraiment le même parcours.
Vous dites que la souffrance est une porte, hein, justement, pour parvenir à cet abandon. Mais parfois, si elle est mal comprise, si elle est mal vécue, elle peut être au contraire une porte qui se ferme sur Dieu.
Oui, ben c'est le douloureux silence de Dieu dont on parlait tout à l'heure, cette injustice en fait qu'on ressent tous devant face à une calamité qui nous arrive. Mais c'est la question, la Bible en parle, c'est la question qui est posée, si j'ose dire, c'est la thématique du récit du livre de Job dont je parle longuement dans le
Oui.
livre. Et l'énigme du mal, la Bible ne l'explique pas au sens humain. Mais quelque part, l'enseignement un des enseignements, parce qu'il y en a plusieurs, du livre de Job, c'est d'abord que Job continue à garder confiance en Dieu, même dans la tourmente. Dieu est là, très présent dans la tempête. Et puis la deuxième chose que Dieu quelque part lui dit, c'est tu n'as pas à alors il n'y a rien à voir avec une injustice, mais tu dois regarder plus grand que toi-même. Tu dois replacer l'obstacle dans ta vie, qui est beaucoup plus large que cet obstacle-là, et puis dans la vie avec un V majuscule, ce mystère qu'est la vie, cette grandeur de la création, et qui reste effectivement un mystère pour l'être humain. Mais on ne peut pas expliquer le mal avec notre, je dirais, notre raison humaine. C'est beaucoup plus large que ça. Et vraiment, l'enseignement, c'est garder confiance, y compris dans la tempête, parce que Dieu nous aime, et Dieu est là, et Dieu nous protège et nous soutient dans la tempête.
Vous soulevez plusieurs idées reçues sur l'abandon. Il y en a une qui est celle de finalement s'abandonner en Dieu, ce serait ne rien faire et laisser Dieu agir complètement en tout. On disait tout à l'heure, seul maître à bord, et puis vous avez à juste titre corrigé en parlant de coopération entre Dieu et l'homme. Pourquoi cette idée reçue est-elle fausse?
Parce que justement, s'abandonner n'est pas renoncer, c'est tout sauf un renoncement. Je dirais que le seul renoncement auquel peut-être dont on pourrait parler, c'est le renoncement à autocontrôle, à cette volonté de tout contrôle. Mais au contraire, Dieu nous appelle à une collaboration, et c'est bien, et c'est si vrai que certains mouvements courants de l'Église dissidente, de l'Église qui ont été condamnés à l'époque, notamment au XVIIe siècle, un courant très connu que les auditeurs connaissent certainement, qui s'appelle le quiétisme, et qui était justement, qui était à la fois très beau parce que parlait qui nous parlait de cette union, en fait, de contemplation de la bonté divine, de cette union de cœur à cœur avec Dieu, mais dans une pure passivité, ce qui est très dangereux parce que dans cette optique-là, l'homme n'agit plus, c'est seul Dieu agit en l'homme. Et alors, du coup, l'homme n'a plus non plus à je dirais, éviter ses mauvais penchants, mais c'est Dieu qui l'en délivre. Donc c'est très dangereux. Alors, je reviens à cette idée de liberté dont on parlait et qui est vraiment au cœur à la fois de l'abandon mais du dispositif chrétien. Dieu nous rend libre, mais libre de coopérer, pas libre de le laisser agir seul. C'est d'ailleurs l'idée même de la providence. La providence agit, bien sûr, l'Esprit Saint agit, mais pas tout seul. Dieu, quelque part, la providence, c'est Dieu qui nous fait agir avec lui dans les circonstances, encore une fois, que nous rencontrons et selon nos dons. Alors, oui, le quiétisme, ça avait été condamné. C'est aussi l'expérience de Madame Guyon dont je parle, l'expérience spirituelle de Madame Guyon dont je parle aussi longuement dans le livre, qui a été apparentée aussi un petit peu à cette idée de quiétisme, qui est un très beau cœur à cœur. On peut lire Madame Guyon avec une distanciation, mais on peut la lire parce que c'est très très beau. Elle nous parle d'union à Dieu, d'une voie aussi pour se désapproprier de ce soi un peu hypertrophié de notre époque. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut conduire, en tout cas mal lu, mal compris, à une déresponsabilisation de l'individu. Or, la responsabilité humaine est indispensable pour justement mettre ses forces au service du projet divin.
Et vous mentionnez d'ailleurs dans votre livre, outre Madame Guyon, cette tentation qu'a eue Charles de Foucault de s'oublier lui-même. Et puis voilà, c'était une mauvaise compréhension de l'abandon. Et j'aimerais bien citer Ethyl Soum, dont vous vous faites largement écho dans votre livre. Elle écrit: « Mon acceptation n'est ni résignation ni abdication de la volonté. Il y a toujours une place pour la plus élémentaire indignation morale devant un régime qui traite ainsi des êtres humains. Mais les événements ont pris des proportions trop énormes, trop démoniaques, pour qu'on puisse y réagir par une rancune personnelle ou une hostilité exacerbée. » Elle a pas lâché l'affaire, elle a pas lâché le combat, mais en s'abandonnant à Dieu, elle a laissé Dieu agir à travers elle.
Oui, alors c'est aussi l'idée que on peut, en s'abandonnant à Dieu, y compris face à une agression, un conflit, c'est pas forcément aussi grave que ce qu'elle a rencontré. Comment on peut agir justement en étant réceptif à la parole? Eh bien, en n'ajoutant pas de la haine à la haine. Et elle a réussi à le faire au sein des camps. Alors c'est héroïque, hein. On n'est peut-être pas tous aussi héroïques qu'elle, mais en tout cas peut-être comprendre que l'abandon dans ce contexte-là d'une agression, c'est rester le plus possible ajusté à ses valeurs morales et éthiques, ce qui n'est pas facile.
Non.
Mais en l'occurrence, donc ne pas ajouter de la haine ou de la rancune ou de l'amertume à l'amertume, etc. Donc c'est très intéressant parce que c'est aussi un positionnement non violent en fait dans la vie de tous les jours.
Vous l'avez dit, Cécilia Duterre, l'abandon en Dieu est un combat, hein, une ligne de crête entre l'acceptation de sa propre fragilité et le fait de la vivre pleinement en s'appuyant sur Dieu. Vous avez évoqué, à propos d'Ethyl Soum, la joie profonde, hein, qu'elle a vraiment, dont elle a bénéficié grâce à cet abandon en Dieu. Quels sont les autres fruits de l'abandon en Dieu?
Alors, on a parlé de la confiance, c'est une
Oui.
condition pour entrer dans l'abandon. C'est aussi un magnifique fruit, puisque quand on sait qu'on est ajusté, quand notre action est ajustée sur plus grand, si j'ose dire, eh bien, on est très confiant aussi dans notre action. On a parlé aussi de la paix intérieure, donc ce qu'on appelle aussi le repos en Dieu, qui détend l'intériorité, qui nous nourrit aussi. Et qui nous... Vous parliez d'anxiété tout à l'heure quand on est dans tout contrôle, bah c'est tout l'inverse. Là, on est dans une forme de sérénité, y compris dans l'épreuve. La
Qui n'est
sagesse
pas un
nous libère.
déni de la réalité.
Non, pas du
Non,
tout.
pas
C'est
du tout.
l'acceptation, au contraire, dans toutes ces dimensions dont on parlait tout à l'heure aussi, dans la joie profonde, qui est une adhésion en fait au réel, dans toutes ces dimensions, ombre et lumière. Et puis, l'humilité, cette l'humilité, pareil, c'est une condition pour entrer dans le cheminement de l'abandon, mais c'est aussi un fruit, puisque on a bien vu que cette humilité, nous, c'est pour ça que je dis dans le livre, c'est la sagesse de l'humilité qui rend libre, eh ben elle nous libère. C'est vraiment la vérité qui rend libre dont nous parle Saint Jean. Enfin, c'est la parole du Christ. On peut aussi goûter à travers l'abandon à l'amour de Dieu, à l'amour absolu, à l'amour pur et désintéressé de Dieu, et qui nous pousse aussi dans cette optique, bien sûr, à pratiquer en fait la charité, hein, deuxième des vertus théologales, et donc à pratiquer la compassion, la solidarité, l'amitié, la complicité, enfin tout ce qui justement transforme le monde dans une optique positive, plus favorable. Et puis, surtout, ça nous conduit à l'union souveraine de l'homme à Dieu, et donc à la réalisation plénière de l'homme dans cette union.
Oui,
Euh,
sa
ce,
vocation.
ce Dieu qui, ce deux, pardon, qui ne fait qu'un, dont nous parle le Christ, moi et le Père, nous sommes un. Et ben dans cette union, l'homme se réalise pleinement. Et d'ailleurs, c'est vrai dans la mystique chrétienne, mais cette notion d'abandon, on l'a pas dit, mais elle existe aussi dans les autres traditions
Oui, c'est vrai. Oui, vous en parlez aussi dans votre livre. Oui.
confessionnel, et tous font de cet abandon, de cette union à Dieu, la réalisation plénière de l'être humain. Donc, on voit là que c'est vraiment le sommet, si j'ose dire, du cheminement. Et alors, sommet des sommets, c'est quand même une voie parfois. Ça peut nous pousser à des actes héroïques. Et comme je parle de Saint Maximilien Kolb
Oui.
à la fin de l'ouvrage, à des actes, ça nous peut nous mettre sur un chemin de sanctification, comme il a pratiqué lui-même.
Oui, en donnant sa place dans les couloirs de la mort. Et finalement, cet abandon, c'est une guérison spirituelle.
C'est une guérison spirituelle parce que dans le dialogue avec Dieu, on lui confie aussi notre difficulté face à l'obstacle. On lui confie aussi parfois ses propres erreurs ou les erreurs que d'autres, des fautes des autres. Et on lui demande soit son pardon quand nous-mêmes nous sommes fautifs, soit de nous aider à pardonner les autres. Enfin, c'est difficile, ça aussi, le pardon à l'autre. Mais en tout cas, on lui confie en fait toutes ces difficultés. Et oui, non seulement c'est une guérison, mais c'est une renaissance en Dieu. Et j'évoque la figure qui est très chère à mon cœur, de Marie-Madeleine, dans le livre, parce que j'ai aussi consacré deux ouvrages à Marie-Madeleine. Et je pense que c'est une figure spirituelle évangélique que beaucoup de chrétiens affectionnent, parce qu'elle est proche de nous aussi, et que elle est dans un repli tout au départ de sa vie, un repli sur elle-même, dans cet ego justement un peu hypertrophié, et dans un dévoiement de l'amour aussi, dans une poursuite amoureuse peu dévoyée. Et tout à coup, elle comprend que ça l'amène à une impasse, et elle va s'ouvrir, elle ouvre son cœur. Justement, c'est vraiment là tout à fait le cheminement de l'abandon à plus grand qu'elle-même. Elle comprend que c'est ça qui va la libérer, c'est l'amour plus grand que cet amour humain mal conduit en fait
Et ça
qu'elle
lui permet
avait.
un ajustement finalement.
C'est un ajustement, exactement. Et par là même, elle est guérie. Et souvenez-vous, elle pleure au pied du Christ. Elle déploie vraiment ses larmes sur ses pieds, etc. Et on voit là qu'elle laisse au fait au pied du Christ. C'est très beau, c'est très symbolique, bien sûr. Tout ce qui est regret, chagrin, amertume, ses propres fautes, les fautes aussi des autres à son égard, elle laisse tout là pour repartir. Et vraiment après, elle se met en chemin, elle avance avec le Christ, elle devient la disciple des disciples, et c'est très beau, ça symbolise vraiment tout à fait ce cheminement.
Alors justement, je vous propose de rester sur cette belle image de Marie-Madeleine et de l'approfondir en lisant votre livre Éloge spirituel de l'abandon aux éditions Arthas. Je vous remercie beaucoup, Cécilia Duterre, de
Merci à
nous
vous.
avoir présenté votre travail, fort intéressant. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.